Chapitre 5. C'était arrivé 3 semaines plus tôt. On ne peut pas dire « tout avait commencé 3 semaines plus tôt », car cela donnerait l'impression qu'il y avait eu une sorte de progression, et ce serait inexact. Il y avait bien eu une progression dans le comportement des voix qui s'était faite de plus en plus violente à mesure qu'elles proclamaient la véracité de leur réalité contradictoire, mais le reste était arrivé d'un seul coup. Il est 8 heures du matin quand il part pour l'école. Et il va toujours à l'école à pied quand il fait beau, et il fait un temps superbe en ce mois de mai. Son père est parti pour la chaîne, sa mère est encore au lit, et Madame Greta Shaw est en train de lire le New York Post en buvant un café à la cuisine. « Au revoir, Greta !» lui dit-il. « Je vais à l'école !» Elle le salue de la main sans lever les yeux de son journal. « Bonne journée, Johnny !» Le train-train quotidien, un jour comme les autres. Et le train-train continue de rouler pendant les 1500 secondes suivantes. Puis, tout change de façon irrémédiable. Il marche d'un pas nonchalant, son sac dans une main et son déjeuner dans l'autre, s'attarde devant les vitrines. 720 secondes avant la fin de cette vie telle qu'il l'a connue, il s'arrête devant la vitrine de Brandios, où des mannequins vêtus de manteaux de fourrure et de tenues édouardiennes prennent des poses un peu raides. Il ne pense qu'aux parties de bowling qui l'attendent après les cours. Son score moyen est 258, un score exceptionnel pour un gosse de 11 ans. Il a pour ambition de devenir un jour un joueur professionnel. Et si son père avait connaissance de ce petit factoïde, il piquerait une autre crise. On se rapproche à présent. On se rapproche du moment où sa raison va subir une soudaine éclipse. Il traverse la 39e rue. Plus que 400 secondes. Il attend le feu vert à la 41e rue. 270 secondes. Il s'arrête devant le magasin de jouets au coin de la 5e avenue et de la 42e rue. 190 secondes. Et alors qu'il ne lui reste qu'un peu plus de 3 minutes d'existence ordinaire, Jake Chambers pénètre dans l'ombre invisible de cette force que Roland appelle « K-tête ». Une étrange sensation de malaise l'envahit insidieusement. Tout d'abord, il a l'impression qu'on l'observe. Puis il se rend compte que ce n'est pas ça, pas exactement. Il a l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, de revivre un rêve qu'il a en grande partie oublié. Il attend que ça se passe. Il attend que ça passe, mais la sensation persiste. Et elle se fait même plus forte, s'enrichit d'un sentiment qu'il reconnaît comme étant de la terreur. Devant lui, au coin de la 5e avenue et de la 43e rue, un noir coiffé d'un canotier installe un stand de bretzel et de soda. C'est lui qui va crier « Oh mon Dieu, il l'a tué !» pense Jake. Une grosse dame portant un sac Bloomingdale's s'approche du coin de la rue. Elle va lâcher son sac, porter ses mains à sa bouche et pousser un hurlement. Le sac va se déchirer. Il y a une poupée dans le sac. Elle est enveloppée dans une serviette rouge. Je la verrai depuis la chaussée. La chaussée sur laquelle je serai allongé, le pantalon imbibé de sang au milieu d'une mare de sang. Derrière la grosse dame, il y a un homme de haute taille vêtu d'un costume gris anthracite. Il tient un attaché-case à la main. C'est lui qui va vomir sur ses souliers. C'est lui qui va lâcher son attaché-case et vomir sur ses souliers. Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais ses pieds le conduisent vers le carrefour, vers la chaussée que les piétons traversent d'un pas vif. Quelque part, derrière lui, de plus en plus près, il y a un prêtre assassin. Il le sait, tout comme il sait que le prêtre va bientôt tendre les mains pour le pousser, mais il est incapable de se retourner. C'est comme s'il était piégé par un cauchemar où les choses suivent leur cours inéluctable. Plus que 53 secondes. Devant lui, le vendeur de bretzel ouvre un compartiment dans sa carriole. Il va en sortir une bouteille du Youhou, pense Jake. Pas une boîte, une bouteille, il va l'agiter et la boire aussitôt. Le vendeur de bretzel sort une bouteille du Youhou, l'agite vigoureusement et la décapsule. Plus que 40 secondes. Le feu va passer au vert. Le signal passé piéton disparaît. Le signal attendez piéton se met à clignoter. Et quelque part au milieu de 2 pâtés de maison de là, une grosse Cadillac bleue roule vers le croisement de la 5e avenue et de la 43e rue. Jake le sait, tout comme il sait que son conducteur est un homme obèse coiffé d'un chapeau de la même couleur que sa voiture. « Je vais mourir !» Il veut hurler ces mots aux passants qui se bousculent autour de lui sans le voir, mais ses mâchoires sont bloquées. Ses pieds le conduisent sereinement vers le croisement. Le signal « attend des piétons » cesse de clignoter et resplendit de sa couleur rouge vif. Le vendeur de bretzel jette sa bouteille du Youhou dans une poubelle au coin de la rue. La grosse dame se plante de l'autre côté de la chaussée, face à Jake, tenant son sac par les poignets. L'homme au costume anthracite est juste derrière elle, plus que 18 secondes à présent. C'est là qu'arrive le camion de jouets, pense Jake. Devant lui, une fourgonnette sur laquelle sont peints un diable jovial jaillissant de sa boîte et les mots « Tucker jouait en gros » franchit le croisement à vive allure, rebondissant sur les nids de poule. Derrière lui, et Jake le sait, l'homme en noir accélère l'allure, se rapproche de lui, tend vers lui ses longues mains. Mais il est incapable de se retourner, tout comme dans ses rêves où vous êtes poursuivi par un monstre. « Cours ! Et si tu ne peux pas courir, assieds-toi et accroche-toi à un panneau de stationnement interdit. Empêche ça d'arriver !» Mais il est incapable d'empêcher quoi que ce soit. Devant lui, au bord du trottoir, il y a une jeune femme vêtue d'un pull blanc et d'un chemisier noir. À sa gauche, un jeune Chicano avec une énorme radio collée à l'oreille. Un tube disco de Donna Summer est en train de s'achever. Il sera suivi par Dr. Love de Kiss, et Jake le sait. Ils vont s'écarter. Alors même qu'il pense à ces mots, la femme fait un pas sur sa droite. Le Chicano fait un pas sur sa gauche, et un espace se crée entre eux. Les pieds de Jake, ces traîtres, l'y conduisent plus que 9 secondes. En bas de la rue, le soleil éclatant de ce mois de mai se reflète sur le bouchon de radiateur d'une Cadillac. C'est une sedan de ville, modèle 1976, et Jake le sait. 6 secondes. La Cadillac accélère, le feu va bientôt passer au rouge, et son conducteur, l'homme obèse au chapeau orné d'une petite plume, a l'intention de le prendre de vitesse. 3 secondes. Derrière Jake, l'homme en noir se penche, « Love to love you, baby » s'achève, et la radio passe à présent « Dr. Love ». 2. La Cadillac change de fil, rasant le trottoir sur lequel Jake se tient un peu plus loin et fonce vers le croisement calandre rugissante. 1. Le souffle de Jake se bloque dans sa gorge. 0. Ah ! S'écrie Jake lorsque les mains le poussent violemment, le poussent sur la chaussée, le poussent vers la mort. Sauf qu'il n'y a pas de main. Il chancelle quand même, agitant les bras, la bouche ouverte sur un « oh » de désespoir. Le Chicano à la grosse radio tend la main, la grippe par le bras et le tire en arrière. « Fais gaffe, petit héros » dit-il, « ces manioles vont te transformer en hamburger !» La Cadillac passe lentement devant lui. Jake aperçoit l'obèse au chapeau bleu qui lui jette un coup d'œil. Puis la voiture disparaît. C'est à ce moment-là que c'est arrivé, c'est à ce moment-là qu'il s'est déchiré en deux, qu'il est devenu deux petits garçons. Le premier agonisait sur la chaussée. Le second se tenait sur le trottoir et regardait, stupéfait, le signal « attendez piétons », laisser la place au signal « passez piétons ». Les gens traversaient la rue comme si rien ne s'était passé. Et rien ne s'était passé, rien du tout. « Je suis vivant !» s'écria une moitié de son esprit avec soulagement. « Je suis mort !» lui répliqua l'autre moitié. « Je suis étendu sur la chaussée et je suis mort. Ils se rassemblent autour de moi et l'homme en noir qui m'a poussé leur dit « Je suis prêtre, laissez-moi passer !» Un flot de nausée envahit son esprit et transforma ses pensées en nuages effilochés par le vent. Il vit la grosse dame s'approcher et jeta un coup d'œil dans son sac quand elle passa près de lui. Il aperçut les yeux bleus d'une poupée enveloppée dans une serviette rouge, tout comme il s'y était attendu. Puis elle disparut. Le vendeur de bretzel ne criait pas « Oh mon Dieu, il est mort !» Il continuait à s'installer pour la journée tout en sifflotant la chanson de Donna Summer que beuglait la radio du Chicano. Jake se retourna, les yeux fous, en quête du prêtre qui n'était pas un prêtre. Il ne le vit nulle part. Jake gémit.
Ressaisis-toi, qu'est-ce qui te prend ?
Il n'en savait rien. Il ne savait qu'une chose. Il aurait dû être allongé sur la chaussée dans l'attente de la mort pendant que la grosse dame hurlait, que le type au costume anthracite vomissait, que l'homme en noir se frayait un chemin parmi les badauds. Et c'était apparemment ce qui se passait dans une partie de son esprit. Il fut pris d'un étourdissement. Laissant tomber son déjeuner sur le trottoir, il se gifla violemment les joues. Une femme en route pour le bureau lui jeta un regard bizarre. Il l'ignora. Abandonnant son déjeuner, il fonça sur la chaussée, ignorant le signal attendu des piétons qui s'était remis à clignoter. Mais cela n'avait plus d'importance. La mort s'était approchée de lui, mais elle était repartie sans le toucher. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, et il le savait au fond de lui-même. Mais c'était quand même arrivé. Peut-être qu'il vivrait éternellement. Cette idée lui donnait envie de hurler.